Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir, toi qui nous écoutes peut-être, enfin on l'espère. Il est 22h et c'est l'heure de la causerie comme tous les dimanches de 22h, donc jusqu'à 23h environ. Et malgré cette fête des lumières, nous sommes à l'antenne. Et ce soir, dans la technique, il y a... Enfin, à la technique même, pas que dans la technique.
Dans les machines.
Dans les machines, il y a Clara.
Bonsoir.
Il y a aussi Fab qui est là.
Bonsoir, mais moi je suis pas dans les machines.
Non, toi t'es pas dans les machines.
Dans le local.
C'est ça, dans le studio invité.
Voilà.
Et donc.
Et Jean-Yves qui fait l'ouverture.
Tout à fait, bonsoir.
Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir.
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 Bonsoir. Bonsoir.
On exaspère déjà Clara, ça fait deux minutes qu'on ne pas
qu'on
est à l'antenne. Alors, on espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid là où vous êtes. Alors, avant de commencer, on va vous rappeler comment nous joindre, évidemment, comme toutes les semaines peut-être, ça vous saoule, mais on espère toujours un petit signe de vous.
Un mail,
bonjour.
Une lettre.
On ne voit pas ton bras.
Ah, ouais. C'est ça.
Oui,
c'est peut-être pour ça que les gens ne nous parlent pas, parce qu'on fait des signes et ils ne les voient
pas. C'est ça.
Alors, donc, vous nous envoyez un mail à lacauseriecanu, tout attaché en minuscule, donc lacauseriecanu@gmail.com. Vous retrouvez évidemment tous les podcasts sur le blog de l'émission. Le podcast est souvent, comme pour la semaine dernière, par exemple, vous retrouvez aussi des bandes annonces. On vous met aussi les communiqués de presse, etc. Enfin, en tout cas, sur les sujets sur lesquels on discute, on essaie de mettre un petit peu des liens quand il y en a.
Parce que nous, on balance nos sources. On n'a même pas peur.
Même pas peur. et donc, c'est sur le blog de l'émission et c'est à blogs. C'est juste, on appuie le S pour que vous sachiez qu'il y en a un. Donc, blogs.radiocanu.org/lacauserie. Sinon, dans votre petit moteur de recherche, quel qu'il soit, vous tapez la causerie Radio Canu et vous devriez tomber sur nous.
Y compris sur la balado-diffusion, aka les podcasts.
Tout à fait.
Parce qu'ils sont aussi ailleurs dans l'univers,
oui,
du internet.
Dans les internets. Dans les internets.
Ils se baladent.
Et donc, nous avons aussi une page sur un réseau socio-commercial. Et Clara en a déjà vraiment plein le dos.
Qu'on appelle Facebook.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Voilà, je crois que j'ai absolument tout dit.
Ouais.
Et je passe donc le micro à Fab. Tu vas nous causer de capote.
Ouais. Le plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc, super doux. Elmer Footbeat, toujours la référence, quoi.
Pour une certaine génération.
Ouais,
oui.
Enfin, pour un vieux comme moi, quoi. Donc, le gouvernement, le gouvernement, c'est surtout le président de la République, Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron, c'est un petit peu le Elon Musk de la France.
Ouais, hein,
c'est-à-dire qu'il balance des trucs, genre, ouh, c'est parti.
Mais c'est marrant, en plus, t'as l'impression que c'est lui qui est là pour les bonnes nouvelles, entre guillemets. Et pour le sale boulot, il envoie.
Les autres.
C'est ça.
Donc il vient d'annoncer qu'enfin les préservatifs allaient être gratuits pour les 18-25 ans, puis finalement il a dit peut-être plus, j'y reviendrai, en pharmacie. Voilà. Alors, et il se félicite d'être le premier gouvernement à le faire. Bon, moi je vais juste rappeler quand même quelques faits. Voilà. D'abord, cette demande, elle est portée par les associations de santé sexuelle et de lutte contre le sida en particulier depuis la fin des années 80.
Oui, c'est ça en fait.
Voilà. 1980, voilà. Donc, se féliciter d'avoir mis pas loin de 40 ans pour la mettre en place, ça laisse un peu perplexe. Hein. C'est un petit peu, une idée qui passe. Voilà, bon. On va aussi rappeler que si l'État met 18 ans au départ, parce que c'est un premier annonce, c'était 18 ans comme âge, et il le dit, c'est parce qu'il considère qu'il évitera ainsi le lever de bouclier des conservateurs.
Mais il l'a vraiment dit ça ?
Oui, 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 ça a été dit par... vous savez, alors Macron fait une annonce, le porte-parole Véran vient expliquer le service après-vente. Voilà. Sauf que, entre-temps, il a rechangé d'avis. Donc il a dit ce sera aussi pour les mineurs. Parce qu'il y a quand même une grosse pression qui a été mise pour dire... Tu te foutrais pas un tout petit peu de notre gueule, Emmanuel. Non, parce que voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut quand même se rappeler que oui, alors je sais, certains ont des enfants, derrière vos enfants ont une sexualité souvent autour de 15 à 17 ans. Oui. C'est la moyenne, c'est comme ça, c'est pas dramatique. Ça a bien passé.
Pas chez les conservateurs, il faut croire.
Aussi, mais eux, ils les laissent...
C'est plus qu'on nie le fait qu'ils aient une sexualité plutôt que l'inexistence réelle d'une non-sexualité.
Ouais, c'est ça. Alors, donc, Olivier Véran, un petit peu embêté, parce qu'entre-temps, il y avait... Parce que, j'ai oublié de vous dire, c'est que Macron, il a fait ça sur Twitter. Parce que, a priori, Twitter, c'est devenu le mode de communication officiel. Hein, c'est-à-dire, je balance des vidéos, je me fais un petit tweet, tout va bien.
Ouais, petite pensée à Delphine du Canu Info du jeudi, qui souvent, justement, quand elle parlait souvent des déclarations, par exemple, de Trump faisait toutes ses déclarations officielles via Twitter, donc une messagerie privée. Enfin, et là, en fait, on arrive dans la même merde.
Mais c'est juste hallucinant de se dire. Donc, et même son ministre, il court du coup, parce qu'il n'est pas au courant du dernier tweet qu'il a fait.
Voilà.
Donc, comme Macron, il a dit finalement, chiche, on va le faire en réponse à un tweet de Monsieur de Chavannes, voilà, qui est quand même un des animateurs télé, alors on l'aime ou on l'aime pas, mais qui quand même depuis 40 ans, 30 ou 40 ans, essaye de faire la capote gratuite, l'accès, voilà, donc c'est quand même son cheval de bataille, et il répond, bien sûr, parce que Macron est quand même un mec qui sait répondre, il dit « Banco, on va le faire, on va mettre nos équipes dessus ». Je vous dis Elon Musk, hein, bah le...
C'est vraiment un winner, quoi. C'est un cadre, un jeune cadre dynamique.
Oh non, mais
et là, vraiment, on a tout le vocable qui va avec, quoi.
Alors, la première réponse que Véran avait faite, parce que quand même, quand il s'est fait un petit peu rentrer dedans, il a dit oui, mais en fait, dans les établissements scolaires, ils peuvent avoir accès à des capotes gratuites. Alors. Voilà, sauf qu'en fait, ça coûtait rien dès le départ d'élargir à ce que les capotes soient gratuites dès 15 ans. Je ne vois pas pourquoi on se prend la tête à tourner autour du pot. En pharmacie, j'entends, c'est-à-dire de pouvoir récupérer. Sans besoin d'accord préalable des parents non plus. Vous voyez, c'est-à-dire c'est juste faire un truc gratos.
Bah, justement, moi, je pense à la rigueur aux jeunes ados qui peuvent, des fois, de milieux conservateurs, voire réactionnaires, qui ne choisissent pas le milieu dans lequel ils évoluent.
Bah, oui, ils peuvent se protéger.
Par exemple, dans une école privée bien religieuse, bien serrée, quoi, et qui, en fait, ils ne pourraient jamais avoir de capote. Parce que dans une école...
Élargir, ça permet surtout, et comme tu dis, pour les gens qui sont dans des milieux... coincé, réactionnaire, et ça aussi, c'est aussi plus de lieux où trouver des préservatifs, quel que soit le temps, le moment. Parce que des fois, on ne choisit pas le moment de sa première fois. Par exemple, on ne se dit pas, je vais faire ça entre lundi et vendredi pour aller voir l'infirmière scolaire avant. Oui, c'est... Non. Voilà. Pardon. Ça reste un peu spontané, la sexualité et tout ça. Voilà. Pour mémoire, hein, quand même, parce que pour répondre à M. Véran, parce que j'ai quand même vérifié, je suis allé chercher les chiffres.
Là, tu réponds à M. Véran ?
Ouais.
Je vais peut-être faire un tweet avant.
Non, c'est que je trouvais que son affirmation, elle était assez comique. En fait, il y a 6 millions de préservatifs gratuits qui sont donnés par an, et très souvent par des associations et pas par l'éducation nationale. C'est souvent des assos, hein, qui font le boulot, faut pas le nier. En fait, c'est 6 millions, c'est sur 114 millions de préservatifs vendus chaque année. Donc, c'est peu. Et donc, ça ne couvre pas les besoins, très clairement. Et toutes les assos disent, voilà, si ça avait suffi qu'on existe et qu'on soit là et qu'on mette des capotes gratuites, ils rappellent qu'il y a d'autres choses, donc, sur lesquelles je reviendrai, qui ne sont pas faites et qui font que, c'est pas parce que, je vais reprendre l'expression que j'ai lue sur un fil d'un réseau social, quelqu'un d'une association AIDS en l'occurrence, qui disait, c'est pas parce qu'on met un saladier avec des trucs dedans que tout le monde sait à quoi ça sert. Mm-hmm. Voilà, je trouvais que c'était une excellente analogie. Alors, autant dire qu'on est quand même loin du compte, hein, surtout quand on sait que finalement, on baisse plus quand on est jeune que quand on est vieux. Hein, voilà, c'est statistique ça. je parle pas. Pour rappel, en fait, le gouvernement avait mis en place aussi des préservatifs gratuits sur prescription médicale. C'est très très pratique d'aller voir ton toubib et de lui dire bonjour. Alors je voudrais une ordonnance d'un an, s'il vous plaît, pour avoir tes capotes gratuites. Non, c'est pas super pratique. Alors, C'était au départ à destination, je rappelle que ça avait été glissé, pour aider les personnes en situation de prostitution, et c'était pas une mauvaise idée en soi, sauf qu'encore une fois, on s'est compliqué la tâche, parce que de peur que les réactionnaires nous disent quelque chose, fallait passer par un médecin qui vous faisait une ordonnance. Et les réactionnaires disaient, oui, parce que comme ça, ça contrôle. Mais je vous pose pourquoi on contrôle, et surtout ça coûte beaucoup plus cher du coup, parce que si vous avez un médecin, 25 euros, vous faites une ordonnance.
Pour une consultation, plus d'une consultation, je pense que t'as
déjà 25, il y a déjà à peu près une trentaine de capotes pour le prix d'une consultation, donc t'as envie de dire, bon, c'est un peu couillon votre idée, mais voilà, bon. Bel dispositif, en fait, il est de toute façon connu que de 21% des Français, hein, c'est-à-dire toute tranche d'âge confondue, et chez les plus jeunes, on est en dessous des 15%, donc c'est vraiment pas connu, hein, qu'on peut aller voir son médecin pour lui demander ça. Donc c'est pas une réussite, très clairement. Surtout que dans le même temps, on n'a pas accrédité forcément les médecins de l'association pour qu'ils puissent faire des ordonnances. Vous voyez, donc ça a été un bin spa possible. Et donc l'année dernière, c'est 542 893 boîtes de préservatifs remboursés qui ont été données, bien loin hein, de ce qu'on aurait besoin, même si les chiffres sont en hausse timide. Mais voilà.
Ouais, et puis même, je me dis, enfin, je trouve que c'est hyper bizarre. C'est peut-être mon point de vue, parce que je suis un mec, etc. Mais d'aller chez le médecin pour un bout de latex, en fait. Il y a un truc de médicalisation.
Alors,
de.
Je vais le dire sans. En faisant un parallèle qui peut paraître un peu étrange, mais qui est quand même aussi un vrai parallèle. C'est, de toute façon, le truc des réactionnaires, systématiquement, pour emmerder sur la sexualité. On avait ça avec les femmes pour la pilule, pour le stérilet, pour tout ce qui est machin. Il faut passer par X machin. Alors que des fois, même des médecins disent, mais on pourrait faire ça en une seule consultation très rapidement. Mais non, il faut faire un parcours machin à la con, là. Et donc, en fait, bah, c'est systématiquement les réacs, c'est leur arme de dire, ah, là, non, il faut passer par le médical. Bon, il y a un moment, on parle de préservatif.
Oui, c'est ça. Autant une hormonation, enfin, je veux dire.
Oui, il peut y avoir une surveillance.
Tu viens introduire quelque chose dans le corps.
C'est pour ça que mon parallèle est pas légal, mais c'est pour dire.
Et là, une capote, c'est juste un bout de latex qu'on déroule sur
le
pénis, quoi.
Sur un pénis,
tout, quoi.
Tout à fait. Ou un bout de latex qu'on met en interne pour les préservatifs dits féminins, et qui sont les préservatifs internes. Voilà, parce que féminin, c'est un peu étrange. Donc, les IST, elles sont en hausse. Alors, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, parce que les infections sexuellement transmissibles, elles sont un petit peu parties à la hausse, alors sévère, y compris pendant le Covid. Donc, alors que je vous rappelle que nous étions confinés. Donc, c'est pas hyper logique. Mais bon, faut croire que des fois, on a envie de faire des choses que c'est interdit. Mais c'est pas grave. En fait, si le gouvernement a donc fait cette annonce, c'est que les chiffres, en réalité, ils sont assez alarmants et la plupart des infectiologues disent on a un réel problème aujourd'hui. Par exemple, sur les 5 à 6 000 personnes qui sont dépistées chaque année du VIH, alors je rappelle que pour 6 000 personnes dépistées, il y en a 3 fois plus qui ne le sont pas, parce qu'elles ne se font pas dépister, et donc qui sont porteuses du VIH. 15% de ces personnes sont âgées de moins de 25 ans. Et ça, en fait, les infectiologues disent que ce n'est pas logique, parce qu'on est censé avoir une génération où on a accès, où on devrait savoir et pouvoir se protéger. Et en fait, on a un taux assez élevé de jeunes qui se contaminent. Et ça, c'est vraiment problématique. Alors, j'ai entendu monsieur Eric Ciotti, j'ai failli vomir en le disant, qui nous expliquait que tout ça c'était à cause de la drogue. Alors, on va lui expliquer que c'est pas vrai. non, il a dit, c'est parce que les jeunes se piquent, évidemment. Alors, bon, après, son logiciel est un peu coincé dans les années 80.
Oui, Clara, je me retiens, mais autant de conneries quand même, en si peu de phrases, en si peu de mots.
Ouais, c'est Eric Ciotti quand même, on n'a pas attendu non plus qu'il dise pas de conneries, je veux dire. Bon.
Tu dis jusqu'à.
Oui, mais il est patron des Républicains ce soir.
C'est ça.
Donc en fait lui il dit ça, mais en fait c'est faux. Alors tous les infectieux ils disent ah non, c'est majoritairement des transmissions par relation sexuelle, ce qui n'est pas grave non plus, mais c'est enfin grave si c'est embêtant d'être infecté, mais par contre ils expliquent que non, c'est faux, c'est pas lié à la recrudescence de la drogue, parce que c'est le grand truc de Ciotti d'expliquer que tout est lié à la drogue. Autre point, et c'est là qu'on voit que c'est lié au sexe et pas à la drogue, c'est qu'en fait il y a une très forte hausse aussi des maladies, notamment à chlamydia et à gonocoque. Voilà, et ça ne s'attrape que par les relations sexuelles. Donc voilà. Et donc c'est une explosion de façon exponentielle depuis 5 ans à peu près. Et donc, je le redis, y compris pendant le Covid.
Voilà. Mais avec l'effet en plus, c'est que pendant le Covid, je pense qu'il y a eu beaucoup moins de dépistage.
Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire
donc,
c'est
il y a aussi que... peut-être à, comment dire...
Alors non, parce que ça se rattrape, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire qu'on fait des statistiques lycées et on se rend compte qu'il y a quand même... En fait, ça n'a pas arrêté la progression.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire il y a une régularité dans la progression.
Ouais,
quoi.
Voilà. Donc, alors effectivement, les dépistages ont été plus tardifs, mais par contre, oui, le taux ramené au nombre de... Voilà. C'est le même, ou c'est en augmentation. Donc c'est lié en fait à l'abandon du préservatif, hein, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et dans le même temps, ça fait que les cas de stérilité augmentent aussi, et notamment chez les plus jeunes, parce que ces infections sont des causes d'infertilité, et notamment chez les hommes comme chez les femmes, parce que contrairement à ce que les messieurs croient, vous n'êtes pas protégés contre la fertilité, et même si les femmes ont plus de risques de. Et en fait, cette augmentation, elle est statistiquement palpable, à tel point qu'il y a même certains médecins qui avancent, mais ça reste encore à prouver, enfin, on va dire, à défricher totalement, que 10% des personnes aujourd'hui qui ont des problèmes de stérilité ou d'infertilité, c'est en lien avec des IST. Voilà. Donc c'est quand même assez élevé. Hein. Faut faire le calcul, c'est quand même. Voilà. Donc, la solution qui a été annoncée, on va être très clair, elle est largement insuffisante. Même si c'est une avancée, on va pas dire que c'est pas bien, mais ça suffira pas. C'est-à-dire que, voilà. En fait, si on peut saluer quand même cette avancée, on sait qu'elle fait bien, enfin, on sait qu'elle fait bien, entre guillemets, d'un point de vue politique,
oui.
Mais qu'elle sera en fait totalement inefficace, ou du moins insuffisante. C'est-à-dire qu'elle va aider un peu, mais elle va pas suffire. Il aurait été, par exemple, déjà plus simple de rendre gratuit l'accès aux préservatifs, pour tout le monde. Sans ordonnance, c'est-à-dire que faut arrêter d'arrêter de tourner autour du pot 50 ans. Hein. Il faut rendre le préservatif gratuit. Point. Voilà. Et d'ailleurs, de faire la même chose pour les protections hygiéniques, hein. Par exemple. Vous voyez, chiche. C'est-à-dire qu'on commence à se dire que tout ce qui concerne la sphère en bas, là, voilà, c'est pas grave. On peut en parler, c'est cool. Donc en fait, capote gratuite, préservatif interne gratuit, protection hygiénique gratuite. C'est
en fait,
pas
c'est compliqué. C'est toujours l'accès. En fait, c'est un truc hyper basique. C'est-à-dire l'accès gratuit à une santé. Et la santé, c'est l'hygiène et la santé. Et tu te dis en fait, oui, rien que ça, ça devrait suffire à se dire. Pas ça, ça fait partie de la vie, et ça fait partie de la protection et des protections qui permettent à l'individu de mieux vivre. Bon, voilà, c'est gratos, quoi, et puis c'est tout.
Bah oui, donc voilà. Donc, autre point, il faut aussi remettre de l'éducation au plaisir et à la sexualité dans les écoles. Et je vais redire cette phrase. Il faut remettre une éducation au plaisir et à la sexualité dans les écoles. Oui, parce qu'on va rappeler quand même qu'on parle de sexualité, que le but premier de la sexualité, c'est le plaisir. Pardon, mais oui, c'est pas enfanter, c'est pas non. Le but premier, c'est le plaisir. Hein, voilà. Je pense que là, Éric Ciotti est mort. Donc,
que Dieu t'entende.
Alléluia. Bon, allez, on a de déconner. Donc, oui. Si sur le papier, c'est censé exister, parce que je vous rappelle quand même que depuis une directive datant de 2012, il est censé y avoir 3 fois de l'éducation sexuel et au plaisir à l'école, et qu'en moyenne les élèves en ont une demi-fois, c'est-à-dire que ça fait même pas une fois par élève.
Ouais. Mais c'est-à-dire 3 fois dans le cursus,
dans
ou 3 fois dans l'an.
Ouais. Alors en fait, en théorie, il y a une fois autour de la entre CM2 et début du collège.
Okay.
Voilà. Une fois qui doit se passer au début du lycée et une fois qui doit se passer pendant les études au lycée ou dans les filières professionnelles. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que tout le monde ait le même niveau d'information et d'éducation. Et je le redis, dans la directive, il est bien écrit que c'est aussi de l'éducation au plaisir. Mmh. Voilà. Et alors pourquoi ça? Parce que figurez-vous que ça fait partie des choses que les gens ne connaissent pas. Mmh. Voilà. Et on rassurer tout le monde. On va pas leur. Il n'y a pas des cours pratiques, hein. C'est oui. Théorique. Ok? Donc je dis ça parce que des fois. Ils...
Ah, mais oui, c'est ce qui circulait voilà. En Suède, je sais pas quoi.
Ouais,
non, enfin,
c'est n'importe quoi. Bref. Donc en fait, ça devrait être en fait des millions d'heures qui devraient être données aux élèves, et en fait, elles ne sont pas données du tout, et où elles sont très mal faites. Parce que par exemple, on va demander aux profs de PS d'assurer. C'est déjà arrivé, hein. Il y a des témoignages. Balance ton à ta SVT. Vous faites, c'est un hashtag, c'est assez marrant. Et en fait, il y a des élèves qui racontent que c'est le prof de PS qui est dû faire la formation aux IST. Wow. Je veux pas avoir prof de.
Alors vous voyez une course de 100 mètres haies. Et bien le sexe, c'est un peu pareil.
Non, mais c'est étrange, quoi, je veux dire.
Ouais,
voilà, bref.
Oui, oui. Mais ça
même
ça
si
montre.
Il l'a peut-être très bien fait, mais oui, je veux dire, c'est juste la façon.
Ça montre aussi le je sais pas si c'est le bon mot, mais le respect qu'on a pour ce domaine-là, en fait.
Là, c'est de l'irrespect, même.
C'est, oui, oui, c'est justement, ça démontre bien qu'en fait, c'est pas du tout un sujet qu'on a à cœur, en fait.
Et en fait, c'est pas sans conséquence, hein, que ce soit mal fait ou machin. Alors que ce soit d'ailleurs pour la santé sexuelle, le consentement, le plaisir ou autre, moins en parler, et ben, moins on en parle et moins bien c'est fait. Tout simplement, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, parce que moi, j'aime beaucoup, hein, qu'on s'alarme. Vous savez, en ce moment, on s'alarme. Je vais essayer de vous la faire façon CNews. Ah, attention, ça va me faire mal. Les enfants, trop de pornographie, est-ce un problème ? Voilà, alors en fait, on s'alarme de ce genre de choses, mais sauf qu'on ne donne pas d'éducation à la sexualité, au plaisir. Et donc, en fait, eh ben oui, vos enfants, du coup, vont chercher l'information là où ils pensent qu'elle est. Mmh. Voilà, alors comme on en parle très peu dans les familles, très peu à l'école, ben voilà, ça fait...
Mais qui plus est, avec la notion de tabou qui est autour de tout ça, etc., et tu dis en fait...
Donc,
oui.
Je vous le redis, évitez que ces news aient encore à dire. Les enfants, la pornographie, bref, voilà. Parce qu'en fait, ils font des liens, j'ai vu pornographie, pédopornographie, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui se fait directement.
Ah ouais.
Pour ça, je me permettais de le faire.
Oui, en même temps, ils font des liens très rapides.
Oui, c'est leur débat d'avant-hier. Pour ça que je me suis permis de le reprendre. Je l'ai pas regardé, par contre. Autre point, donc les moyens donnés aux associations de santé sexuelle ont tendance à baisser, en fait, ces dernières années, contrairement à ce qui est annoncé. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une petite entourloupe dans les calculs. C'est-à-dire que comme on ne prend pas en compte l'inflation et qu'on dit ah, mais non, on n'a pas baissé, on a donné la même chose. Bah ouais, mais quand il y a 10% d'inflation, il y a aussi 10% d'inflation sur les capotes, hein, donc il y a un moment donné en fait où bah, si tu donnes moins, il y a moins de moyens, et puis ben, les salaires, il faut quand même à un moment donné qu'ils suivent l'inflation, donc si tu donnes la même chose à une association et qu'elle salarie des gens pour aller dans les écoles, et bah, là où elle pouvait en salarier 10, elle peut plus en salarier que 8, donc du coup bah, t'as moins de possibilités, et ainsi de suite. Donc non, en théorie, il faut pas donner la même chose. Faut donner au moins la même chose plus l'inflation chaque année. Et ça fait un certain nombre d'années que c'est pas le cas, hein, donc voilà. Et c'est certainement pas comme ça, hein, d'ailleurs, qu'on va aider. Parce que les plus démunis, les plus pauvres, aient accès à de l'information et des soins de qualité. Parce qu'on va quand même rappeler que selon si on est riche ou si on est pauvre, on n'a pas accès aux mêmes informations et à la même qualité d'information. Ouais. Et pourtant, on sait, hein, que ce sont ces associations globalement qui permettent d'éviter un décrochage, pourtant déjà existant, hein, des plus pauvres aux pratiques de santé safe, tout simplement. Et c'est souvent parce que ben elles vont les croiser dans des lieux où personne d'autre ne va, notamment. Et je vous dis ça sans stigmatisation, dans les milieux dits professionnels. C'est souvent des assos qui assurent dans les milieux pro, voilà. Là où ça se fait, hein, ça se fait pas partout. Hein.
Ah oui, oui,
faute de moyens. C'est toujours le même truc. Hein,
oui, et puis tu reviens aussi sur la voie professionnelle, c'est déjà la cinquième roue du carrosse de l'éducation, etc. Ouais. Donc forcément.
Oui, mais par exemple, il y a des profs de milieu pro qui disaient que s'il n'y avait pas d'assaut, en fait, ils n'auraient quasiment pas de moyens de temps ou de choses comme ça. Donc par exemple, on va donner un exemple, c'est les vaccins contre les papillomavirus, qui sont quand même d'une protection extrêmement efficace contre beaucoup de cancers de l'utérus et de l'anus. Hein. Et ben en fait, il y en a 4 fois plus chez les plus aisés que chez les plus pauvres. C'est-à-dire que selon si vous êtes fils de CSP, plus ou fils d'ouvrier, ben en fait, vos parents sont plus ou moins informés parce qu'ils disent pas les mêmes choses, ils regardent pas les mêmes lois. Et puis aussi parce que, ben, tout simplement, ils ont pu croiser dans leur, y compris scolarité personnelle, des gens qui leur auront parlé, voilà, avant que vous existiez. Et le port de la capote, c'est pareil, il est plus le port de la capote, je vais y arriver.
Oui, parce que la carotte peut aussi se servir,
on peut.
C'est pas dans le thème, quoi.
Et je vous conseille sincèrement de protéger votre carotte avec une capote, qu'on va rappeler quand même que quand on s'introduit des choses, il faut faire attention à ce que ce soit un peu propre.
Oui.
Voilà. Ferme la parenthèse. Donc le port de la capote est plus répandu chez les plus riches aussi, de l'ordre de 3 fois plus en moyenne. C'est assez énorme, hein, en fait, hein, quand on regarde ça. Et là, en fait, c'est la première chose qui arrive, parce qu'il y a quand même des études qui ont été faites pour savoir, bah, c'est le coût des préservatifs, le prix. Parce que, oui, hein, on dit il y a des préservatifs gratuits, blablabla, blablabla, blablabla. Sauf qu'en fait, eh ben, les gens, je vais vous donner un exemple dans le milieu LGBT, et je dis ça parce que j'en fais partie et que j'ai aucun problème à en parler. On dit, oui, mais il y a des capotes gratuites dans tous les lieux festifs. Oui, mais pour aller faire la fête, faut avoir les moyens d'aller faire la fête. Donc la capote gratuite, si vous n'avez pas les moyens d'aller faire la fête à 15 boules le Coca Red Bull, il y a un moment donné, vous n'y allez pas. Et donc vous croisez pas la capote gratuite, qui est toujours gratuite, hein, c'est pas un problème, mais vous l'avez pas. Et puis on dit, bah oui, mais il y a des associations qui le font, sauf qu'elles n'ont plus de moyens, donc elles sont ouvertes sur des horaires où vous êtes souvent dans des métiers à horaires décalés, parce que souvent quand vous êtes pauvre, attention à mes auditrices, auditeurs, ça va vous faire bizarre, mais parfois les pauvres travaillent en horaire décalé pour que vous puissiez vous manger le repas que vous avez commandé. Je ne sais qu'un exemple parmi tant d'autres, ou faire vos cadeaux de Noël à 21h. Et donc du coup, en fait, ces personnes, elles n'ont pas accès aux assos parce qu'elles sont fermées. Mais ce n'est pas une non-volonté des assos, c'est, là, encore une fois, on en revient, manque de moyens, etc. etc. Donc c'est la même chose, par exemple, pour la PrEP, vous savez, ce médicament qu'on peut prendre pour éviter d'être infecté par le VIH, ça ne marche pas sur les autres IST, hein, je le rappelle, ou du moins pas autant que ce qu'on aimerait. C'est un médicament de pré-exposition, hein, donc qui fonctionne très bien. Et bien en fait, à 90%, aujourd'hui, la PrEP, elle est réservée et donnée à des CSP+, c'est-à-dire des gens qui ont les moyens de, ou qui sont issus de familles qui ont les moyens, ou qui ont fait un cursus scolaire qui les ont amenés à fréquenter un milieu dit CSP+. Ouais. CSP+, c'est la classe sociale privilégiée plus. C'est c'est statistique. Et les assos, elles en sont désolées. C'est-à-dire que c'est très bien que ça existe, il n'y a pas de souci, mais c'est très compliqué, en fait, de suivre ça. Vous voyez, c'est toujours le machin. Ou alors, comme ils le disent, il va falloir inverser la vapeur et se dire qu'il faut aussi en parler comme outil de prévention, ce qui ne serait pas une mauvaise idée. Mais là, je crois qu'il y a les Républicains qui, et le Front National, le Rassemblement National, tout ça, ils ne sont pas d'accord. Donc, il n'y a donc pas, en fait, il n'y a pas que des mesures économiques à mettre en place, mais bien aussi, en fait, des mesures sociales et sociétales et d'éducation. C'est, voilà. Moi, je suis quand même halluciné de voir qu'on parle si peu de sexualité à la télé, par exemple, ou à la radio. Voilà. Ou alors on en parle, mais on en parle peu, beaucoup. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin,
oui, c'est pas un sujet.
C'est pas un sujet qui devient un sujet central. Alors, il y a des émissions qui essayent, je dis pas le contraire, à la radio comme à la télé, mais ça reste encore des émissions qui sont souvent écoutées ou regardées par des gens qui sont plutôt de la classe moyenne haute. Et voilà. Et on a du mal, en fait, à aller parler de choses comme ça. Et je fais ma parenthèse avec De Chavannes, qui faisait une émission extrêmement populaire et qui était regardée extrêmement par les classes populaires, et qui quand même disait sortez couvert à la fin de chaque émission. Et finalement, il avait cette leitmotiv qui fonctionnait. Voilà. Et donc, il faut aussi faire de l'éducation populaire. Donc, ça veut dire que là, bah, politiquement, en fait, les groupes politiques, tout ça, les syndicats, les machins, bah, il faut se réemparer de cette problématique-là. Alors moi, quand je dis ça, on me dit, comment ça, les syndicats, machin, oui, bah, en fait, faites-le là où vous pouvez, quoi. mais c'est important d'en parler. Donc, ce sont, en fait, les seuls moyens réellement efficaces pour voir baisser les IST, en particulier le VIH. Parce qu'il n'y a pas 50 000 solutions. Porter des capotes, ça protège les IST. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ait un vaccin, parce qu'on a peut-être un jour un vaccin contre les gonocoques, un vaccin contre la chlamydia, mais pour l'instant, ils n'existent pas. Donc, et peut-être un jour un vaccin contre le VIH. Ce qui nous, quand même, nous ramènera un petit peu à des choses un peu plus sympas. Donc il va falloir donc s'armer aussi de courage, parce qu'il va falloir combattre les fake news. Parce que alors là, la fake news, il y en a autour de la sexualité. Alors fake news, souvent entretenue par des milieux religieux et conservateurs. Hein, parce que
ça, c'est étonnant.
Il y en a une très ancienne. Hein, la masturbation rend sourd,
oui.
Par exemple. Et on a déjà parlé ici. Et donc d'arrêter de ne vouloir choquer personne à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là. Bah si, bah va falloir choquer, hein. Pardon, mais il n'y a pas 36 000 solutions. Cette position assez frileuse, hein, depuis la fin des années 90, où on se dit « Ah oui, mais non, mais voilà », en fait, elle nous amène le droit dans le mur. Et derrière ce mur, en fait, enfin, le mur, c'est des vies qui sont en jeu, en fait, hein, donc voilà. Et donc oui, pied à pied, il va falloir casser les arguments des anti-vax, des anti-choix, des anti-vie, tout ça, qui nous emmerdent, voilà, enfin, qui font chier, quoi. En fait, non, c'est pas anodin, hein, faut le rappeler, par exemple, d'avoir une IST, mais c'est à prendre au sérieux et à soigner le mieux possible, mais c'est pas grave non plus. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que faut pas se sentir stigmatisé, il faut déstigmatiser le fait d'attraper une IST. C'est une maladie. Je crois pas encore qu'il y ait des gens qui se mettent devant les médecins qui font ouh, t'as eu la grippe. Vous voyez, c'est un truc débile, voilà. Bon, bah c'est pareil, c'est-à-dire que c'est des, mais par contre, il faut donc lever les tabous autour de la sexualité, les tabous autour de ce que la sexualité peut entraîner, et enlever la chape de plomb qui fait que les personnes qui sont atteintes tardent souvent à se faire soigner. Parce que c'est aussi lié à ça. La honte fait qu'on tarde à se faire dépister, à se faire soigner, à se faire aider. Et plus on tarde, et plus on augmente le risque d'infertilité. Ou d'ailleurs, pour les personnes où c'est le VIH, on peut augmenter le risque de déclencher un sida. Donc c'est ça, en fait, le truc, c'est arrêter d'avoir, de faire du tabou, de la honte sur la sexualité et sur les risques qui peuvent exister. Parce que c'est pas grave, c'est pas parce qu'on connaît les risques que enfin, ça permet juste d'éviter les choses. Pour faire un parallèle foireux, mais c'est volontaire, c'est un petit peu comme si on me disait « Ouais, mais il y a beaucoup de risques, donc faut pas le faire. » Ben en fait, il y a énormément de risques à prendre une bagnole et pourtant on est plein à le faire tous les jours. Et pourtant, vous, statistiquement, vous risquez beaucoup plus votre vie à être dans une voiture à rouler que à d'avoir une sexualité active. Hein. Donc voilà. Et ben pourtant, vous le faites. Donc oui, sauf que vous connaissez les risques parce qu'on vous a expliqué les risques. Et donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tu voulais dire quelque chose ?
Non, du tout. Pardon. Non, je t'écoute religieusement.
C'est sur le sujet, ça tombe mal. Donc, au lieu en fait des moyens purement techniques, parce que finalement, donner les capotes gratuites, c'est un moyen technique, il faut y additionner en fait un choix de société, de vision de la sexualité et de dédramatisation de la sexualité. On va le redire, la sexualité, c'est avant tout pour le plaisir. Et c'est pas grave, hein, voilà. On peut bien rendre gratuit tout ce qu'on veut. Si on continue à rendre honteuse la sexualité, on résout pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on va faire des capotes gratuites, mais dire « attention ». La sexualité, c'est mal, ben, en fait, ça servira à rien, parce que les gens n'iront pas chercher la capote gratuite. Donc voilà. Donc je vais faire quand même quelques rappels, hein, pour vous, amis auditrices et auditeurs. Des centres de dépistage des IST, et pas que du sida, sont disponibles sur tout le territoire, donc n'hésitez pas à les consulter. Je vous rappelle qu'en France, c'est gratuit, et que donc que c'est pris en charge par la Sécurité sociale, et que donc, en fait, vous pouvez vous faire dépister quand vous avez un doute, ou quand d'un seul coup, vous dites « bah tiens, là, j'ai eu trois partenaires ces derniers temps, est-ce que finalement, voilà, ou c'est pas grave, c'est juste, bah, c'est comme quand on va faire vérifier son cœur. » Vous voyez, c'est pareil, c'est juste on prend soin de sa santé, tout simplement. Des associations aussi hein, sont là pour vous aider, et pareil, n'hésitez pas, elles sont souvent habilitées d'ailleurs à faire ce qu'on appelle des tests rapides pour l'orientation vers le soin, ce qui permet, et maintenant je crois qu'ils ont été pour certains élargis à d'autres IST que le sida, et donc ça permet, bah, par exemple, quand on a un doute, d'aller voir une asso qui peut parfois faire un test rapide et dire « ah ouais, effectivement, là, je conseille d'aller voir ça », ou « tout va bien », vous voyez, ça rassure, voilà, c'est bien. Vous pouvez aussi demander, hein, je vous le rappelle, un dépistage du VIH, donc du sida, gratuit, n'importe, dans n'importe quel laboratoire de biologie médicale. Vous entrez, vous sans ordonnance et gratuitement, et vous n'êtes d'ailleurs, je vous le rappelle, pas obligé de donner votre nom ni votre carte vitale. On vous donne un numéro de dossier, et en fait, vous dites, ben voilà, je voudrais juste vérifier si oui ou non, je suis atteint. Et vous revenez chercher avec le numéro. Et voilà, ce qui fait que c'est totalement anonymisé si vous le souhaitez. Mais encore une fois, il n'y a pas de honte. Donc, vous pouvez le faire sans être anonyme, c'est pas honteux. Voilà, je vous le dis. Mais avant toute chose, hein, la sexualité, c'est juste génial et c'est très bon. Tout simplement. Donc, il ne s'agit pas en rien de la brider ou quoi que ce soit. Mais comme toute activité, bah, connaître les règles de sécurité aide à ne pas avoir de déconvenus, hein, tout simplement. Donc voilà, se renseigner, savoir ce qu'on fait, prendre ses risques en connaissance de cause aussi, parce qu'on a le droit aussi de vouloir prendre des risques, c'est pas interdit, mais les faire en connaissance et en consentement. Parce que
c'est ce que j'allais rajouter.
Évidemment, parce que c'est aussi, ça se fait à deux ou à plus, hein. Donc voilà, oui, parce que pour l'onanisme, vous risquez pas grand chose, donc ça va. Mais par contre, voilà, si vous êtes deux ou plus, et ben oui, il faut que tout le monde soit consentant sur la pratique qui est mise en place. C'est la moindre des choses, voilà. Mais en tout cas, ben, c'est pas tabou, donc il faut juste se renseigner, et voilà. Donc, je reprends ma phrase, parce que Clara m'a dit ta dernière phrase ne veut rien dire. Donc voilà. Donc que vous baisiez ou pas, c'est pas un problème. Par contre, protégez-vous, faites attention à vous. Voilà.
Tu valides ? Non, tu valides pas, Clara.
Elle est pas bonne ?
Bah, que vous baisiez ou pas, protégez-vous.
Oui, si vous ne baisez pas, ouais. Si vous protégez.
Voilà. Ouais, si mais peut-être ils utilisent des carottes et protégez la carotte quand même, quoi. Parce que j'ai encore une fois, quand on s'introduit des objets.
Tu baises avec une carotte, non ?
Hein ?
Tu baises avec une carotte ?
Non, mais je veux dire.
C'est vrai, non,
quand
mais c'est
on s'introduit un objet, il faut oui. faire attention à ce qu'on oui. s'introduit.
Ça vaut pour carottes. Non, mais ça vaut pour carottes, godes, etc.
Oui, oui,
hein,
oui,
je veux dire,
nettoyez,
les godes aussi. Hein.
Nettoyez et faites attention. Et puis voilà. Et pareil, ne mettez pas d'alcool sur des godes Michet parce que ça les rend poreux. Et c'est une très mauvaise idée. Et ça se lave avec de l'eau et du savon.
Et du savon. À l'ancienne.
non, mais si vous voulez, je peux leur faire toute la soirée comme ça. Mais en tout cas, non. Voilà. Amusez-vous. Et encore une fois, dédramatisons.
Oui, oui, mais de toute façon, voilà. C'est en faisant un sujet lambda qu'on va dédramatiser.
Mais c'est un sujet lambda, en réalité.
Oui, mais sauf que c'est le cadre qu'on pose qui va rendre le sujet soit exceptionnel, soit bah. Lambda, en fait.
Moi, j'espère que j'ai pas été anxiogène ce soir. C'est pas le but,
ah non, non, je crois pas, je crois pas du tout. Non, ah, non mais non, c'est, ouais. C'est effectivement, c'est peut-être un sujet qu'il faudrait qu'on reprenne régulièrement, ouais. Donner des recettes pour nettoyer ses godes et ses joujoux,
mais
j'en sais rien.
Mais moi, ce qui m'a quand même un peu halluciné, et je vous le dis, c'est que, bon, Macron a fait son annonce, là, moi, je m'attendais à ce que ça fasse assez peu de vagues, je me suis dit, bon, c'est cool, mais il faut voir les réactions.
Oui, mais
c'est quand même un truc où on se dit, mais on parle quand même d'un objet qui est connu depuis quand même très longtemps, parce que le préservatif, c'est bien avant le sida, je le rappelle, qui fonctionne, qui aujourd'hui est quand même vachement plus sympa que l'époque où on le faisait en pot de je sais pas quoi, et c'était voilà. Et honnêtement, il y a un moment donné, il faut juste se détendre et se dire, donner l'accès à ces outils-là, et ben c'est juste un pas de plus vers prendre en compte le droit de chacun d'avoir sa santé entre ses mains, c'est tout.
Oui, oui, mais voilà. C'est, le problème, c'est que les réactions, sûrement, que tu as dû voir, ça vient des milieux réactionnaires, religieux, et qui, eux, ont une lecture très simple de la sexualité. Elle n'est point pour le plaisir, elle est là pour donner des croyants, quoi. Enfin, c'est ça la réalité, quoi. C'est repeupler le monde. Et c'est... Non, mais je veux dire.
Moi, je suis d'accord avec toi, mais sauf que moi, j'aimerais interroger un jour les religieux. Parce que si Dieu ne s'est pas trompé, et si Dieu a tout bien fait, les dieux ou Dieu, parce que souvent, il y en a, ils ont plusieurs. Expliquez-moi pourquoi ils sont allés mettre la prostate à cet endroit-là et le clitoris aussi visible. Parce qu'il y a un moment donné, s'ils font pas d'erreur, c'est qu'il faudrait bien qu'on prenne notre pied à un moment donné. Sinon, ils les auraient pas mis comme ça.
Ouais. Mais c'est là aussi, ces sujets-là sont ultra politiques. Parce que justement, en face de nous, on a des gens qui, eux aussi, politisent la sexualité, les corps, etc. Et le plaisir. Parce que, avant tout, on parle toujours de plaisir.
Oui.
Et que, c'est chez ces gens-là, le plaisir, c'est niette, quoi.
Plaisir,
c'est pas bon.
C'est
quoi.
Mal, mais sauf que c'est tellement bon.
C'est ça. Donc, protégez-vous, sortez couverts, comme disait l'autre.
Ben oui, tout à fait.
On passe à la zic.
Allez.
Us warm, waiting for the wind to get calm. The only light comes from the burning tobacco. The bottle is empty and I can only see its shadow. We'll be right back.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et vous venez d'entendre... Oui, ça faisait un petit peu bizarrement.
Ça faisait foire foraine. Et bienvenue enfin, tu vois.
Accrochez vos ceintures, mesdames et messieurs. Attention, attention au départ. C'est la causerie 22h, 23h sur Radio Canu
non,
le dimanche.
Tu peux juste annoncer le titre
oui,
aussi.
Oui, alors c'était,
merci.
C'était Elias Driss, voilà, avec le titre Tempest. Voilà. Et j'adore cet artiste. Et donc du coup, Jean-Yves, toi tu voulais nous parler d'une série.
Tout à fait. Nous en avions déjà parlé en 2017, hein, dans la 200e causerie, lors de la sortie de la saison 1, ou de la première saison. Il s'agit de la web-série, ou en tout cas de la série La Théorie du Y. J'ai mis le web, enfin vous pouvez pas le savoir, mais je l'ai mis entre parenthèses parce que justement en fait, depuis la première saison, c'est diffusé plus largement que juste sur le web. Et donc La Théorie du Y, hein, qui est quand même, je le rappelle, la première série francophone sur la bisexualité. Alors au casting, hein, on retrouve Anna, personnage principal des deux premières saisons, qui est joué par Léon François Janssen, ainsi que Claire, qui elle est interprétée par Ophélie Honoré. On découvre dans cette troisième saison Gaspard, hein, qui est joué par Gaspard Rosenwegen. Oui, désolé, je ne suis pas sûr de...
Le néerlandais, ce n'est pas facile.
Ouais, oui. Et qui est le personnage principal cette saison et qui est aussi le frère de Claire. Ouais. Vous voyez, il est en couple avec Joe, aka Joséphine, qui est joué par celle qui est aussi la créatrice et la réalisatrice de la série, à savoir Caroline Taillet. Création et réalisation qu'elle fait aussi en compagnie de Martin Landmeters, et ce depuis la première saison. Et je rappelle aussi que c'est en fait c'est aussi une pièce de théâtre.
Oui, au départ.
Avant même la série, c'est une pièce de théâtre en fait. Alors, si les deux premières saisons étaient axées sur la bisexualité féminine, eh bien, cette troisième saison nous parle de la bisexualité masculine. Alors là, on entend encore les réactionnaires. Oh voilà, c'était juste parce que ce soir, c'est un peu leur fête. Alors, on entre donc dans la vie de Joe et Gaspard. Alors, lui est aide-soignant dans une maison de repos. Elle, elle anime une émission de radio consacrée à la sexualité, aux relations amoureuses, aux couples. Et donc, un jour, Gaspard, à la laverie, comme ça, il tombe sous le charme de Michele, ce voisin qu'il mate depuis son balcon. Hein. Alors, il le voit danser, vivre, mais aussi baiser. Enfin, vous voyez, il y a une sorte de tension un peu qui est présente.
Donc il aime beaucoup fumer sur son balcon.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Gaspard aime beaucoup fumer sur son balcon. Alors Gaspard, hein, le dit à Joe, ouais, parce qu'en fait, une des règles de leur couple est de tout se dire. Joe sait bien que Gaspard est bi, hein. Il l'était déjà avant qu'il la rencontre. Et malgré toutes les questions en fait, que ça soulève dans sa tête, tous les doutes que ça vient mettre, hein, dans la tête de Joe...
Comme de Gaspard d'ailleurs.
Comme de Gaspard, mais quand t'es directement toi la personne concernée, tu t'es troublé mais pas par les mêmes choses que la personne qui peut t'accompagner dans la vie.
Je disais ça parce que c'est pas un personnage qui arrive et qui l'impose.
Ah non,
en mode,
non, du tout. Non, non,
bah,
non.
C'est plutôt lui non, aussi ton questionnement, cheminement. Ouais.
Et donc malgré les doutes et tout ça, elle va l'aider, hein, l'accompagner en fait sur le chemin de son épanouissement. Parce qu'il s'agit un peu de ça aussi quand même. Donc les scénaristes en fait, ils ont discuté, ils ont interviewé en fait des mecs bisexuels et ça se ressent quand même, je trouve, sur l'écriture des différents profils, sur les peurs, sur les doutes qui peuvent habiter l'entourage, les remarques que peuvent entendre Gaspard et Joe, etc., etc. Et attention, grand scoop encore, ça ne vient pas forcément que des hétérosexuels.
Bah non.
Bah non.
Et c'est là que je trouve, moi perso, je fais une parenthèse, la série très très intéressante, c'est qu'elle a des dialogues extrêmement bien écrits. Alors effectivement, comme c'était une pièce de théâtre, on sent qu'il y a l'habitude d'écrire des dialogues, et effectivement ils sont extrêmement bien écrits. Et il y a des situations où en quelques mots, en fait, on comprend tout le sous-entendu, parfois violent, que peuvent se prendre les personnes bisexuelles dans les dents, y compris dans des milieux soi-disant safe, où en fait, c'est des bonnes claques hein, par moment.
Oui. Voilà. Oui, parce que les bisexuels ont la chance d'avoir des gens qui les aiment pas trop, qui ont peur d'eux, que ce soit chez les hétérosexuels, mais aussi chez les homosexuels. C'est la formidable chance qu'ont les bisexuels. C'est quand même génial, non? Enfin bon, bref. Donc la série, en fait, quand même, elle se limite pas non plus uniquement à la bisexualité de Gaspard,
ah non, clairement pas.
Aux doutes et aux peurs de Joe, à leurs expérimentations. Hein. Non, on y parle aussi de parentalité, d'homoparentalité, diront certains et certaines, de PMA aussi, procréation médicalement assistée, et aussi de transidentité, ainsi que du couple. Des couples, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y en a pas qu'un, mais des choix aussi, enfin, et des choix, des règles qu'on peut décider d'appliquer dans un couple, en fait, et des tremblements que ça peut provoquer aussi pour d'autres. Hein, et c'est-à-dire que la liberté des uns peut faire peur à d'autres.
Oui. Et surtout, on apprend le consentement à la liberté aussi dans
oui.
cette série. Je trouvais ça très intéressant, le questionnement sur le consentement à la liberté. Ouais, cette phrase, c'est un peu compliqué, mais vous allez voir.
Ouais, c'est...
Et autre aspect que, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais on parle aussi de l'âge. Et j'ai trouvé que ça très intéressant. Il y a quand même la notion d'âge oui. qui revient. L'âge aussi bien des protagonistes, voilà, que aussi
des personnages principaux,
mais aussi, aussi de personnages dits secondaires, qui vont en fait amener un questionnement aussi sur... est-ce qu'il faudrait pas vivre avant de mourir, quoi.
Ouais,
et c'est super intéressant.
Carrément.
Mais la phrase paraît bateau, mais en fait, elle prend vraiment un sens. Vivre avant de mourir prend un sens très très profond. Et j'ai trouvé ça très beau.
Être, exister. On y parle aussi hein, de masculinité, de polyamour, mais bien sûr, on y croise aussi la haine, le rejet et tout ce genre de choses-là, pas les plus sympas qu'on a dans la vie. Alors évidemment, hein, le format, la durée de la saison 3 fait que je ne peux pas trop vous en dire. Parce qu'en plus, il y a aussi Clara hein, qui veille toujours à ce que je n'en dévoile pas trop.
Et elle a sorti un flingue, alors fais gaffe, parce que je sais pas que...
Pourquoi je vais me faire passer, toi ?
Ouais, c'est vrai ça. Coupe plus le micro.
Ouais, tiens.
Alors... Alors, évidemment, je peux pas trop en dire, mais il y a 6 épisodes en fait de 17 minutes. Alors, même si ça fait des épisodes vraiment plus riches, hein, ça ne fait pas en temps plus que les deux premières saisons, non, qui elles étaient. Elle avait plus d'épisodes, mais plus courts.
En fait, ça donne le temps de développer certains aspects, notamment,
oui.
moi j'ai trouvé sur les dialogues, c'est-à-dire oui. que, alors j'ai beaucoup aimé les deux premières saisons, j'ai vraiment. Mais là, je trouve qu'on laisse du temps. En fait, parfois, avoir des dialogues de 5 minutes entre ouais. des personnages qu'on pouvait, on sentait que des fois un peu expédié dans les, c'est pas méchant quand je dis ça,
non, mais, oui,
mais un
oui.
peu plus raccourci dans les deux premières saisons. Et là, je trouve que ça amène des fois un petit peu d'apaisement et ça fait du bien.
Oui.
Ça évite
oui.
le côté très rapide.
Puis même si je veux pas trop en dire, mais quand même. Mais enfin, si on pense à ce dialogue qu'il peut y avoir entre deux gars.
Ouais, tout à fait.
Etc. En fait, leur moment à eux dure quasiment la durée que faisait un épisode avant dans les premières saisons.
Ouais,
en fait.
C'est ça.
Donc, ouais, vraiment, il y a plus de temps pour poser les choses, etc. Donc, sur ce point-là, c'est vraiment un plus d'avoir pu faire durer les épisodes plus longtemps, même s'il y en a moins. Bref, je ne vais pas en dire plus, j'ai dit. Hein, la série est toujours aussi bien jouée, toujours aussi bien filmée. Je trouve qu'il n'y a pas un personnage de trop,
non.
parce que chacun vient. Complexifier en fait le réel en fait. Je trouve qu'il y a... enfin c'est même pas complexifier le réel, c'est rendre le réel palpable en fait, parce
ouais,
que le réel est complexe en fait. C'est pas blanc noir hétéro homo machin, c'est tout est plus complexe. Nos vies sont plus complexes, on est 7 milliards sur 8 milliards sur la planète. Donc ça fait autant de complexité, et complexité ne veut pas dire je sais pas des choses inabordables, je sais pas quoi, hein. C'est juste C'est pas simple.
Non, puis en plus, moi je trouve l'écriture des personnages est suffisamment intelligente pour justement ne pas être manichéenne, comme tu disais. Mmh. Donc du coup, ça fait du bien d'avoir des personnages mmh. dans des séries qui sont pas manichéens, qui sont pas parfaits, qui parfois tâtonnent, cherchent un peu des trucs. Et puis, je trouvais que depuis la première saison, il y a une vraie interrogation sur la notion de communauté. C'est-à-dire communauté, communautarisme, c'est ce truc qu'on entend tout le temps. Et en fait, moi j'ai trouvé très intéressant parce que l'autrice et l'auteur ne se freinent pas à interroger aussi ces notions-là ouais. et de les interroger intelligemment. C'est-à-dire pas les interroger par un prisme purement politicard, je suis pour, je suis contre, voilà, ça n'aurait aucun intérêt. Mais plutôt en fait de chaque personnage, qu'est-ce que lui apporte le fait d'avoir un endroit communautaire, pourquoi certains ça les rebute, pourquoi en fait, et en fait c'est pas fait en plus de façon frontale en mode on va parler de la communauté. C'est fait en fait très subtilement sur les parcours de vie des uns et des autres, et j'ai trouvé ça très intéressant, et notamment le positionnement d'Anna qu'on retrouve, qui était l'héroïne des deux premières saisons, qui, je vous le rappelle, n'était pas très très fan des espaces communautaires au début, voire même était un petit peu en mode ouh, ça sert à rien tout ça, voilà, et qui petit à petit évolue, et qui dans cette saison là bah, en fait a un positionnement qui est pas tout à fait le même qu'avant, mais je vous rappelle qu'entre temps, elle est partie à Berlin. Mmh. Voilà. Ouais, donc, ouais. Non, mais voilà. Donc, ces parcours de vie font que. Et c'est très intéressant de voir que, bah, ils font évoluer leurs personnages aussi en fonction bah, de leur propre vécu, leurs expériences, sans les laisser monolithiques, sans
oui,
dire.
Oui, c'est pas voilà, homogène, c'est... en fait. Une communauté,
oui, c'est. Enfin, ça ne devrait pas être, bah, c'est plein de gens.
Ça ne devrait pas être homogène.
Et ça ne l'est
tout
pas.
Tout le monde ne devrait pas avoir le même look.
Mais c'est ça. Non, mais en fait, ça ne l'est pas. Et c'est juste que parfois, on peut se conformer, nous, à une homogénéisation qui nous rassure. Et en fait, finalement, c'est là qu'en fait, ça arrive l'interrogation de dire est-ce que finalement, on n'est pas en train de s'enfermer dans quelque chose ? Et je trouve que la série est très intéressante aussi sur cet aspect-là, parce qu'elle le fait pas du tout en mode je vais vous donner une réponse, mais plutôt en mode bah voilà comment mes personnages le vivent et pourquoi ils le vivent comme ça. Voilà, et je trouve ça très intéressant.
C'est l'existence voilà. d'individus et pas une armée semblable.
Et ça renforce du coup la notion d'individu.
C'est ça, c'est exactement ça. Bon, bref, vous l'aurez compris, hein, je vous invite vraiment à regarder cette série. Et je pense que je ne suis pas le seul dans la pièce. Donc, la théorie du Y, c'est compliqué à dire, ouais. Disponible gratos sur YouTube, sur le YouTube de la RTBF,
bah oui.
Parce que c'est belge, vous l'aurez peut-être compris. Et on vous mettra aussi, évidemment, le lien sur le blog, hein, histoire que vraiment vous ayez juste à cliquer pour y arriver. Quoi, hein, vraiment, on vous facilite le truc. Hein, parce qu'on veut vraiment ouais. que vous regardiez ça. Donc, n'hésitez pas aussi bah, à commenter si cette série elle peut vous parler ou enfin ouais. si vous avez aimé, enfin partagez vraiment, parce que là aussi je trouve que c'est aussi donner de la visibilité à un sujet, comment dire, la bisexualité masculine, autant la bisexualité féminine elle peut faire fantasmer le plus beauf des hétéros, parce que finalement ça vient non, nourrir oui. son esprit machiste et tout ça.
Puis ça fait partie un petit peu des cartes à jouer du porno mainstream.
C'est tout
quoi,
à fait ça. Ouais. Alors que effectivement la bisexualité masculine, c'est plus compliqué. Donc vraiment je trouve que c'est je trouve que c'est vraiment bien que ça soit mis en scène, en image, et de manière très simple et pas du tout donneuse de leçons ou je sais pas quoi. C'est juste voilà. C'est une existence, c'est une réalité. Donc voilà, donc je rappelle la théorie du Y. Et ce qui serait bien, c'est qu'on passe à la musique, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter.
Bah regardez la série.
Bah voilà, tout est dit.
Sauf alors. Clara qui veut pas qu'on la regarde du coup. Je plaisante.
Je te recoupe le micro.
Allez, en musique. We'll be right back.
minimaliste jusqu'au bout. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, et c'est toujours la causerie, hein, comme tous les dimanches de 22h à 23h. Et là, on vient de s'écouter un des rares titres qui parle de bisexualité masculine. En tout cas, de bisexualité, oui, avec un chanteur masculin. Et c'est donc The Magnetic Fields avec le titre Underwear. Et c'est là aussi où, quand j'ai cherché ce titre, parce que je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver un titre. Bah, c'est-à-dire, autant des titres sur la bisexualité féminine, il y en a quand même un paquet. Ouais. Même les plus connus, hein, enfin, je pense à I Kiss a Girl, etc., mmh. Hyper grand public. Mais alors les mecs, on sent que ça fait pas fantasmer le mâle hétéro de base, quoi, tu vois. Vraiment, il y a un truc quand même. Donc voilà. Donc c'était juste mes petites aventures de recherche de musique, mais je trouve que c'est parlant aussi d'un regard sur un sujet dans la société, quoi. Et ben on passe au bref.
Ouais, et on démarre avec le mardi 13 décembre. Il y a une soirée de soutien contre le Lyon-Turin. Vous savez, ce projet ferroviaire qui n'a pas un très très grand intérêt, il faut quand même le dire, voire pas d'intérêt du tout. Mais qui par contre engouffre des milliards de milliards de milliards, là où on pourrait mettre ces milliards de milliards de milliards par exemple pour améliorer le réseau ferroviaire local, ce qui serait pas mal, enfin un peu partout. Donc du coup c'est le mardi 13 à l'Amicale du Futur, 31 rue Sébastien Griff dans le 7e, et c'est à partir de 18h30 jusqu'à 23h30, et le but, bah, c'est venez manger, buvez et discuter avec les membres du collectif Note Tave, nos contre le Lyon-Turin. J'ai retrouvé plus mes petits.
C'est tout à fait ça.
Voilà.
Ok, et le rendez-vous suivant, c'est jeudi 15 décembre à 18h. Ça se passera à l'Illégalité. C'est à Villeurbanne, hein, c'est 6 rue de l'Égalité. Et alors, chaque semaine, tous les jeudis, l'épicerie gratuite de l'Illégalité, lieu de solidarité autogérée du quartier de Cussa à Villeurbanne, permettait à une cinquantaine de personnes de se renflouer en produits alimentaires, d'hygiène et de première nécessité. Alors évidemment, hein, dans l'équipe, tout le monde était bénévole et il n'y a aucune subvention. Ça fonctionnait exclusivement grâce aux dons et aux collectes lors d'événements, à la récupération des invendus, l'entraide et en autogestion. Sauf que, après 2 ans d'existence, en fait, en novembre dernier, l'épicerie a dû être mise en pause parce qu'il y a eu des difficultés d'approvisionnement, mais aussi des manques de bras. Et quand on se lance dans un tel une telle activité, une telle action, en fait, il faut effectivement avoir des bras. Donc l'idée, c'est justement de pouvoir parler de tout ça, de pouvoir peut-être se motiver à participer à ça. Et donc le rendez-vous, c'est jeudi 15 décembre à 18h pour présentation de l'épicerie et discuter autour de ce projet-là. Et donc c'est à l'Illégalité, c'est 6 rue de l'Égalité à Villeurbanne, c'est au métro Cusset, vous êtes à même pas 500 mètres du métro Cusset jusqu'à l'Illégalité. Voilà.
Et le 17 décembre à 14h30, c'est-à-dire samedi prochain, il y a une manifestation pour le retrait de la loi immigration de Darmanin. Donc en fait, alors, ils écrivent à la rentrée, en début d'année prochaine, parce que la rentrée, un coup c'est septembre, un coup c'est janvier. En fait, en début d'année prochaine, le ministre de l'Intérieur, il va défendre au Parlement la nouvelle réforme du droit d'asile annoncée par Macron. Là aussi, hein, Macron, il annonce, le ministre font. L'objectif, en fait, c'est toujours le même, hein, criminaliser toujours plus les personnes exilées, tout en renforçant l'idée qu'on va donner de la main-d'œuvre pas chère et gratos, quasi gratos, au patronat, hein, au passage, pour les métiers en tension, parce que ça, on a déjà connu, hein, contrairement à ce qu'ils nous disent. Je vous laisserai vous pencher, par exemple, sur ce qui s'est passé chez Renault dans les années 70 et comment on a fait venir des gens du fin fond des pays dits amis, je mets des guillemets à ce que je dis, parce qu'on leur avait fait la guerre quand même juste avant, pour renflouer parce qu'on manquait d'ouvriers.
C'est ça. Et là, j'ai l'impression qu'un peu ce que Macron et sa fine équipe veulent nous préparer, c'est en fait ce que proposait le Sarkozy.
Oui, tout à fait. L'immigration choisie, c'est ça. C'est ce que pratique aussi le Canada depuis des années.
La grande terre d'exil.
Donc voilà, donc c'est quand même, il faut se rendre compte quand on est en train, en fait, finalement, de remettre au goût du jour. Alors, bon, on n'en est pas encore à regarder les dents, mais de choisir qui rentre, qui sort et pourquoi, et pour faire de la force de travail. Ça rappelle quand même des choses assez dégueulasse de l'histoire, il faut arrêter de se mentir. Donc c'est donc le 17 décembre à 14h30, c'est pour demander son retrait. Et moi je pense, que c'est, je le dis en dehors de ça, au-delà de la loi Darmanin, il y a déjà aujourd'hui en France énormément de lois restrictives qui emmerdent et qui pourrissent la vie à des gens qui sont juste là parce qu'ils ont envie d'être là et que c'est pas grave. Et en fait qui pourrit la vie aussi à des réfugiés, parce que ce sont tous des réfugiés, qui aujourd'hui fait qu'il y a des gamins qui dorment dehors, parce qu'on a une loi qui dit que si un gars qui estime que l'humérus il est un peu trop long, bah alors c'est plus un enfant, alors on les laisse dehors et on les laisse crever dehors au froid et voilà. Et tout ça, ça existe déjà. Alors ouais, faut virer la loi Darmanin, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça suffira pas, va falloir aller plus loin que ça, va falloir aussi fermer les CRA, centres de rétention administratifs, qui sont des prisons où on enferme des gens qui ne sont condamnés à rien, simplement qui sont simplement pas là au bon endroit, selon ce que
ils
l'État
décide. Ils n'ont juste pas les bons papiers.
Voilà, il va falloir aussi arrêter de se mentir sur le fait qu'on a une approche aujourd'hui complètement folle de cette question-là, parce que on répond trop à l'extrême droite en permanence et qu'elle est en train de saturer l'espace public et notre pensée de choses qui sont complètement folles et qui sont inadmissibles. Je vais le dire, mais par exemple, moi, voir des gens qui sont joyeux de voir une équipe, l'équipe du Maroc notamment, qui a gagné la Coupe du Monde, je sais pas quoi. Alors, je sais même pas si ils ont gagné, ils sont passés en demi-finale, c'est ça, c'est je sais ça. Même plus où ils en étaient les pots. Je suis pas le foot. Mais en gros, en tout cas, il y a des gens qui ont fait la fête. Et tout de suite, parce que c'était des gens pas blancs, parce qu'on va dire ça hein, clairement, on leur a envoyé les CRS, les keufs, on est allé taper sur eux, on les a gazés, et après on a dit, il y a eu des incidents. Vous voyez, bah en fait, c'est ça la gestion aujourd'hui et la vision qu'on a de tout ça, et surtout que ces gens qui se réjouissaient, pour beaucoup, ils sont français. Voilà, donc c'est juste ça. Et en fait, on continue à avoir ces fantasmes, on continue à avoir tout ça, et tout ça en fait s'alimentait par une extrême droite qui sursature en réalité l'espace public. L'immigration en Europe n'est pas et n'a jamais été un problème. On n'est pas submergé, c'est une connerie. Mais prenez tous les ethnologues, et les gens qui comptent, j'ai perdu. C'est pas ethnographe d'ailleurs le terme. Statisticien et tout, ils vous le disent. En fait, on est une des régions du monde où le moins de personnes en mouvement arrivent. Et vraiment, toute région confondue du monde, hein, je veux dire, même le Japon fait mieux que l'Europe. Donc c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on est dans un délire, et ce délire-là, il est alimenté par des proto-fascistes qui sont en train de faire leur beurre sur la souffrance de quelques personnes qui demandent juste le droit de souffler. Voilà. Et donc, c'est pas que la loi Darmanin, c'est au-delà de ça, mais il faut aussi empêcher Darmanin de passer cette loi.
Oui, et puis on en parle souvent, mais même quand on fait des sujets économiques, politiques, etc., on le dit souvent, en fait. C'est-à-dire que l'immigration, d'un coup, devient l'épouvantail à con, comme disait un certain humoriste, et c'est vraiment ça. Ça devient un épouvantail qu'on agite devant vous pour dire « Tous vos problèmes, c'est ça, en fait !»
C'est n'importe quoi. Enfin,
alors que, en fait, je pense que c'est de loin pas ça, en fait.
Il y a plus de problèmes à avoir un Bernard Arnault que d'avoir 10 personnes qui descendent d'un bateau.
C'est exactement ça. Et voilà. C'est effectivement pas non plus avec un ministre de l'Intérieur qui défend un programme en citant, je crois, un fasciste ou un. C'était.
Alors, je sais plus le nom du gars, mais il a fait une espèce de pirouette rhétorique pour dire, regardez, même lui qui était d'extrême droite, il disait qu'on pouvait pas empêcher l'immigration. Donc, vous voyez, Rassemblement National, vous devez voter ma loi. Bon, c'est comme ça qu'il s'est justifié. En fait, dans les faits, il a simplement fait du pied à l'extrême droite une fois de plus. Et c'est tout à fait le problème. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on ne voit. La question finalement des droits humains et de la liberté de mouvement que par un prisme qui est systématiquement celui de l'extrême droite et de la peur de l'autre.
Ce qui fait qu'elle n'a pas besoin de gagner, elle a déjà ses idées au pouvoir.
Mais je pense qu'elle ne veut pas
bien
gagner.
Sûr.
Elle n'a pas besoin.
Enfin bref, donc voilà, le rendez-vous est donné 14h30.
Ouais, 14h30, Bellecour.
Ouais. Samedi. Voilà. On va se quitter en musique rapidement avec... Oui, je sais, vous allez dire encore. Bah ouais, c'est un nouveau titre. Donc c'est Samira Fall.
Encore.
La slameuse et poétesse qui habite le Sénégal et qui a sorti, je vous ai passé, je crois, il y a 15 jours ou 3 semaines, le titre Aveugle. Et là, ce nouvel extrait s'appelle Sourd. Donc on vous.
Et c'est vraiment génial.
Ouais, on vous invite à vraiment tendre l'oreille. On vous donne rendez-vous, nous, évidemment, dimanche prochain, 22h, 23h et un peu. peu plus à l'antenne de Radio Canu. Et puis bah, d'ici là, faites attention à vous, partagez, regardez autour de vous, il y a des gens qui ont besoin d'aide, donc n'hésitez pas. Je pense aux jeunes réfugiés qui vivent dans des squats, aux gamins qui sont hébergés dans les écoles, etc. etc. Il y a plein de monde qui, eux, n'auront pas de cadeaux, qui n'auront pas de vin chaud, qui n'auront rien.
Et vos voisins et voisines qui peuvent être isolés.
Aussi.
Tout seul,
donc ouvrons les yeux toujours et encore, et pas que en cette période. Et ben voilà, et puis comme disait l'autre aussi, sortez couverts pour rester dans le thème. Allez, des bisous, à bientôt.
Des bisous,
ciao.
Salut.
Ciao.
Elle s'en est allée après sa sœur, fuguant les cris et les pleurs, quittant ses oreilles lâches, lui s'en est allé vers de plus vertes contrées. Elle ne supportait plus d'entendre toutes ces femmes qui suffoquaient, étouffées dans un murmure autant de peine. Si la violence était un son, il serait le cri furtif de cette petite fille qu'on a forcée au jeu des grandes personnes dont elle ne connaissait aucune règle. Elle n'a même pas encore commencé à voir ses règles qu'elle processe déjà la douleur du sang. Si la violence était un son, il serait son cri furtif suivi de son silence assourdissant. S'il était une voix, il serait celle de toutes ces femmes qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne croit pas. Il n'y a pas de victime ici-bas, il y a la victime parfaite, celle dont l'apparence et la classe sociale ne suscitent aucun doute. Il ne fait pas bon d'être femme pauvre et en quête de liberté, de ne rentrer dans aucune des cases des dictats de la beauté du lambda sénégalais. Dans cette société sourde aux signaux de détresse, elle s'en est allée accompagner la défunte dans son lit de terre. Après que son jadis bien-aimé ait labouré son corps en y plantant des graines de bleu arrosées à la source d'injures, il a cueilli avec la paume de sa main le souffle de vie de sa femme. Les voisins ont entendu les cris, ils en étaient habitués et ont préféré augmenter le volume de leur télé. Que voulez-vous ? Lui s'en est donc allé. Après que sa sœur vision ait foutu le camp, fuguant les cris et les pleurs, quittant ses oreilles lâches, elle s'en est allée vers de plus vertes contrées.